Merci Cécile et bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième partie de notre série sur le Tibet, 50 ans d'occupation chinoise.
Le temps arrivera où le Dalai Lama et le Panchen Lama n'auront plus de nom. Les monastères seront détruits, les jours et les nuits passeront lentement dans les souffrances. Testament du 13e Dalai Lama, 1931.
D'histoire. Jamais les droits de l'homme n'ont été si souvent invoqués qu'à la fin du XXe siècle. Jamais non plus ils n'ont été aussi souvent bafoués. Ce fut le cas il y a plus de 50 ans, le 7 octobre 1950. Ce jour-là, quelque part au pied de l'Himalaya, les 40 000 soldats des 6e et 18e armées chinoises du général Chute partaient à l'assaut du Tibet. Mais à l'époque où se déclenchait la guerre de Corée, alors que Staline asservissait la moitié de l'Europe, et quelques mois à peine après l'arrivée au pouvoir de Mao Tse-tung, le sort de quelques millions de Tibétains n'avait pas assez d'importance pour mobiliser les journalistes et émouvoir les opinions publiques. Et c'est dans l'indifférence générale que dans son palais du Potala, à Lhasa, le chef spirituel et temporel du Tibet, le 14e Dalai Lama, apprenait l'invasion de son pays par l'armée chinoise.
Votre sainteté.
Oui.
Les Chinois nous ont envahis.
Les Chinois ont franchi le fleuve en 6 endroits autour de Chando.
Il y a eu des tués?
L'opérateur radio a parlé d'un mort et puis il a ajouté « Les soldats chinois sont là, à nos portes ». Et ensuite, plus rien.
7 semaines a débuté la libération pacifique du Tibet. Des éléments de l'armée populaire de libération ont pénétré dans cette région occidentale de la Chine à la demande des populations locales. Dans ce bastion de l'impérialisme, les Tibétains vivaient depuis longtemps dans un royaume féodal sous la tyrannie du Dalai Lama.
Françoise Pomaré, bonjour.
Bonjour.
Alors après avoir rappelé hier avec vous ce qu'était le Tibet avant l'arrivée des Chinois en octobre 1950, nous allons parler aujourd'hui de l'occupation que subit ce pays depuis plus de 50 ans, depuis l'invasion chinoise du 7 octobre 1950. Un événement, vous le rappelez dans votre livre, qui s'est produit dans l'indifférence générale. Personne ne s'est inquiété de ce qui se passait au Tibet. Il faut dire qu'il n'y avait pratiquement pas de témoins à part cet opérateur radio qui est cité dans cet extrait de film de Scorsese.
Oui, vous avez raison. Et vous avez bien fait de rappeler qu'il y avait une situation internationale, un contexte international extrêmement mouvementé à l'époque, que la guerre de Corée approchait, que la Chine venait de se doter d'un régime communiste. Donc il y avait tout un tas, une convergence, si vous voulez, d'événements qui faisaient que le Tibet, qui également, par sa faute quelque part, avait gardé une position et isolationniste, donc n'avait jamais voulu s'ouvrir à l'étranger, et donc n'était pas connu. Alors cet opérateur radio était un Anglais, Robert Ford, et il opérait la radio de Chamdo, c'est-à-dire la ville à l'est du Tibet central, qui était la capitale du Kham, et qui était sur la route de Lhasa. Et il était là, et il a été fait prisonnier par les Chinois, et il est resté 5 ans dans les geôles chinoises.
Oui, alors ce qui est surprenant quand même, Françoise Pomaré, je dis qu'il n'y a pas, parce qu'on est au courant petit à petit, hein, cette invasion s'est faite graduellement, mais on a été au courant, il n'y a pas, on est en pleine guerre froide, même les pays les plus anticommunistes de l'époque, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui avait des liens et des intérêts au Tibet, n'a protesté à l'ONU. Je crois qu'il y a un seul pays, on se demande pourquoi, le Salvador, qui a émis une protestation, et puis c'est tout.
Oui, le Salvador a fait preuve de ça. D'ailleurs, le Salvador est resté dans les annales comme le seul pays qui a protesté à l'ONU. Non, les États-Unis et surtout, je dois dire, l'Angleterre, qui avait eu des intérêts au Tibet, on l'a rappelé hier, au début du XXe siècle, l'Angleterre a laissé vraiment tomber, d'une certaine façon, les Tibétains par peur de la Chine, mais également l'Inde venait d'acquérir son indépendance, ne l'oubliez pas aussi. Donc le contexte géopolitique avait complètement changé.
Ne pas provoquer la Chine. Alors, il faut dire aussi, on l'a entendu dans cette émission radio, la Chine présente cette invasion comme une libération. Hein. C'est l'armée populaire de libération qui vient libérer, entre guillemets, le Tibet. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cru aussi peut-être
à ça ? Bien sûr, d'abord il y a des gens qui ont cru, non seulement des Chinois communistes de bonne foi, mais également, je pense, des Occidentaux qui ont cru vraiment que le Tibet était libéré. Le problème, c'est ce qu'on appelle une libération par un peuple étranger avec une armée étrangère, c'est quand même limite. Mais ça, on ne peut s'en rendre compte maintenant qu'à posteriori, si vous voulez. Mais pour les communistes chinois, la Chine était la paume de la main et il fallait libérer le Tibet, le Népal, le Ladakh, le Bhoutan et le Sikkim. Ça devait re-rentrer dans le giron de la mère patrie.
Alors vous dites re-rentrer, Françoise Pomaret, parce que c'est vrai que l'influence chinoise avait été considérable dans le passé, avant que le Tibet ne proclame son indépendance en 1912, avec le 13e Dalai Lama, c'était un pays qui était déjà sous influence chinoise.
Bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. Le Tibet a été très influencé par la Chine du point de vue politique, surtout à partir de la dynastie des Mandchous et du XVIIIe siècle. Avant, la Chine influençait le Tibet, mais comme l'Inde avait influencé le Tibet. Ce sont Et quand je dis re-rentrer, je me place là du point de vue des communistes chinois, re-rentrer dans le giron de la mère patrie. Je ne me place absolument pas du point de vue historique.
Alors c'est vrai que pour Mao, qui venait à peine d'arriver au pouvoir en 1949, le Tibet était donc une province chinoise à laquelle, d'ailleurs avant même d'envahir le Tibet, il avait exprimé donc ses conditions, ses exigences au Dalai Lama au début de l'année 1950.
Les communistes sont maîtres de la Chine. Jereci Ke. Il faut que le Bouddha de la compassion le sache. Mao Tse-tung a exprimé trois exigences. La première, que le Tibet reconnaisse qu'il fait partie de la Chine. La seconde, que la défense du Tibet soit assurée par la Chine. La troisième, que les affaires étrangères et le commerce extérieur du Tibet soient menés depuis la Chine.
En fait, ce sont ces exigences, Françoise Pomaret, que viennent réclamer les Chinois en envahissant le Tibet en 1950. Pourquoi, quel est l'intérêt que représente le Tibet pour la Chine? Après tout, c'est un pays assez pauvre. Est-ce que c'est un intérêt stratégique? C'est pas économique quand même.
Non, si. C'est en partie économique et comme on l'a dit hier, lorsque les Anglais et les Russes au début du XXe siècle se sont intéressés au Tibet, pour les Chinois c'était un petit peu la même raison, les mêmes raisons stratégiques, économiques, car on contrôle l'eau. N'oubliez pas le Tibet, le château d'eau de l'Asie, donc celui qui contrôle le Tibet contrôle toutes les sources des fleuves asiatiques. Et également, c'est une superficie gigantesque qui peut servir de valve pour la population chinoise. Alors, économiquement, bien sûr, ce n'est pas une terre fertile, en grande partie.
Mais il y a des forêts.
Oui. Il y a beaucoup de forêts au Tibet du Sud-Est et au Tibet de l'Est. Et il y a également des minéraux, dont le lithium. Le Tibet est le deuxième, apparemment, les réserves du Tibet sont les deuxièmes au monde de lithium.
Oui, mais est-ce que c'est pas aussi un château fort, c'est-à-dire pas seulement un château d'eau, un château fort, je veux dire par là, le pays qui possède le Tibet domine physiquement, géographiquement la Chine.
Et l'Asie.
Oui.
La Chine et l'Asie, vous avez raison. Mais encore une fois, je le vois plutôt en termes de contrôle des fleuves, d'avoir une puissance sur les fleuves. Et vous savez qu'actuellement en Chine, il y a également de grands projets pour les fleuves, le Yangtze ou le Huanghe. Donc, ce contrôle des fleuves qui a toujours été dans l'âme chinoise était très important. Et puis également, aussi, la position stratégique qui lui permet de dominer l'Inde.
Alors, au début, l'occupation chinoise n'est pas trop mal supportée par la population. Il faut rappeler, c'est assez curieux d'ailleurs, mais que le Panchen Lama, le numéro 2 de la hiérarchie, avait lui-même fait appel à l'armée chinoise. Bon, il faut dire qu'il avait 12 ans, donc on l'a sacrément influencé. Mais il y a certains Tibétains qui ont bien accueilli cette armée, qui avaient des ordres très stricts. Il fallait qu'ils ménagent la population tibétaine et la religion tibétaine. Ils étaient corrects, comme on disait au début de l'occupation allemande en France, au début les Chinois.
Oui, je crois que ça c'est une des grandes habiletés des Chinois, qui a toujours été de séduire la population locale, dont ils avaient besoin également pour se nourrir. Et ils avaient des consignes extrêmement strictes et ils étaient extrêmement polis. Ils payaient ce qu'ils prenaient, mais le but, c'était de faire, selon Mao, tous les efforts possibles, par tous les moyens, pour se concilier le Dalai Lama et la majorité des couches supérieures de la population. Donc, afin de transformer le pays graduellement. Donc, c'était un petit peu, ça c'était également complètement dans la droite ligne de ce que voulait Mao.
Alors, il faut dire que vous parlez du Dalai Lama, il n'est pas renversé, il reste, il est même, à ce moment-là, il devient, parce qu'il a 18 ans, le souverain non seulement spirituel, mais temporel du Tibet, comme tous ses prédécesseurs.
Il est couronné après
l'arrivée des Chinois, le Panchen Lama est toujours là, il y a un gouvernement pro-communiste avec des Tibétains aussi.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué, le gouvernement du Dalai Lama reste en place. Les Chinois ne touchent pas pendant assez longtemps à la structure du gouvernement du Dalai Lama, qui n'est pas pro-communiste. Au contraire, il y a des dissensions énormes. Mais à côté, les Chinois vont avoir un régime ou un Chinois parallèle qui va être prêt à prendre le pouvoir si celui du Dalai Lama s'écroule.
Alors le Dalai Lama lui-même n'éprouve pas de l'antipathie pour les Chinois au début. Il est même plutôt fasciné par ce qu'il va voir en Chine. Il est invité officiellement et solennellement en 1954, Françoise Pomaret. C'est là, on a le sentiment que c'est à ce moment-là qu'il se rend compte des intentions réelles de Mao Tse-Tung.
Le Dalai Lama d'abord était jeune, il était enthousiaste et il avait plutôt, comme vous dites, des bonnes intentions vis-à-vis de la Chine au départ. Il était curieux de tout, il adorait la mécanique, donc voir des usines, ça l'intéressait énormément. Et puis tout d'un coup, lorsqu'il voit Mao à plusieurs reprises, Mao et Chou Enlai, et il avait d'ailleurs un grand intérêt, une grande estime pour Mao, ce qu'il avoue lui-même, jusqu'à ce que Mao lui déclare, évidemment, dans sa fameuse phrase, que la religion et donc l'opium est un poison pour le peuple et qu'elle a servi une race.
Oui, c'est un récit qu'il a lui-même repris, qu'il a raconté lui-même dans ses mémoires, cette rencontre avec Mao en 1955, telle que le Dalai Lama donc l'a raconté dans ses mémoires, et elle a été fidèlement reprise dans cette scène du film de Martin Scorsese, Kundun.
Votre séjour a-t-il été bon?
Fort intéressant. Vos usines sont très impressionnantes et j'ai beaucoup aimé...
Vous avez beaucoup de choses à apprendre. Sachez que je vous comprends. Mais je dois vous apprendre autre chose. La religion est un poison. Un poison. Un poison qui affaiblit la race. Comme une drogue, elle obscurcit l'esprit des populations, de la société. Elle est l'opium du peuple. Le Tibet a été empoisonné par la religion. Et votre peuple est empoisonné et inférieur. Inférieur.
Après 6 mois passés à Pékin, le Dalai Lama a fait, selon la mode de son pays, ses adieux aux autorités chinoises avant de regagner le Tibet. Son séjour auprès de Mao Tse-Tung a permis de donner vie au nouveau statut du Tibet, qui devient une province dotée d'une certaine autonomie.
Alors c'est une archive pâtée de 1955, le Tibet devenant une province chinoise. Dans l'extrait là que l'on a entendu et qui reproduit fidèlement la fameuse rencontre entre le Dalai Lama et Mao Tse-Tung, Mao Tse-Tung s'en prend à la religion, c'est-à-dire à l'essence même de ce qui fait le Tibet.
Voilà, exactement. Et c'est pour ça que les deux peuples ou les deux idéologies sont totalement incompatibles. Et Mao ne reprend que le classique marxiste, c'est un classique du marxisme. Et le Dalai Lama écoute, mais ne peut pas comprendre, puisque lui-même, d'ailleurs on l'a entendu dans un autre extrait, et on s'adresse à lui comme le bodhisattva de compassion. Donc lui-même est une divinité. Comment voulez-vous que ces deux hommes puissent avoir un terrain d'entente ?
Alors, le Tibet va devenir la région autonome du Tibet, officiellement, de la Chine, officiellement en 1965, Françoise Pomarez, et puis alors avec des réformes. Il faut rappeler que le Dalai Lama lui-même, d'ailleurs, souhaitait des réformes sociales dans son pays, qu'il n'a pas eu l'occasion de faire. Les Chinois vont les faire dans un sens très communiste. C'est vraiment un Tibet qui change complètement à ce moment-là de nature, au début de l'occupation chinoise.
Certes, en particulier la société, mais ce que je voudrais rappeler, c'est que le Tibet actuel, la région autonome du Tibet actuelle, qui a été donc établie en 1965 officiellement, n'est qu'une toute petite partie de ce que les Tibétains considéraient comme le Tibet, et le reste a été inclus et morcelé par les Chinois dans différentes autres provinces qui ne font pas partie officiellement du Tibet. Ce qui explique que souvent, avec les statistiques, on a du mal, parce qu'on ne sait pas de quel Tibet on parle. Est-ce que c'est de la région autonome simplement, ou est-ce que c'est ce qu'on appelle le grand Tibet culturel?
Quand vous faites référence aux statistiques, Françoise Pomarez, vous parlez peut-être aussi des statistiques démographiques, parce que il se trouve que c'est à l'époque des années 50, et depuis l'époque des années 50, qu'il se passe quelque chose qui est redoutable pour l'avenir du Tibet. C'est une véritable, non seulement invasion, mais colonisation. Les Chinois vont installer des populations chinoises au Tibet.
Oui. En particulier des commerçants, et tous les petits métiers comme cordonnier, boucher, etc., pour lesquels les Tibétains ne connaissaient pas. Donc il va y avoir énormément, et puis de migrants chinois qui s'installent avec des conditions favorables. Et puis le problème des statistiques, c'est que les Chinois n'incluent jamais dans leurs statistiques la population militaire, c'est-à-dire l'armée.
À partir de quand, Françoise Pomarez, on observe une résistance qui n'existait peut-être pas au tout début à cause de la position ambiguë du Dalai Lama? À partir de quand peut-on parler d'une opposition tibétaine aux Chinois, et pour quelles raisons?
Alors en fait, l'opposition tibétaine aux Chinois a commencé il y a très très longtemps, même en 1912 et 1913,
à l'époque chinoise.
Mais elle a toujours existé au Tibet de l'Est. Au Tibet de l'Est, la résistance à la Chine a toujours été là. En revanche, au Tibet central, elle a commencé vraiment dans les années 57-58, lorsque les mesures ont été trop draconiennes, et en particulier lorsqu'il y a commencé à avoir la famine.
C'est ça qui a provoqué la première grande manifestation violente de cette opposition en 59, je crois.
Ce qui a vraiment provoqué la manifestation de 59, qui a conduit à la fuite du Dalai Lama, c'est en fait l'invitation des Chinois, que les Chinois avaient faite au Dalai Lama pour qu'il aille voir une pièce de théâtre. Et les Tibétains, on pensait qu'ils allaient l'enlever. Voilà. Donc c'était la personne sacrée du Dalai Lama pour laquelle il se mobilisait.
C'est donc le déclenchement.
C'était un catalyseur, si vous voulez, d'une frustration qui existait.
C'est le déclenchement, en tout cas, de la première révolte qu'est connue le Tibet occupé par la Chine, et dont on apprend en France, donc, le déclenchement grâce au correspondant de l'AFP à New Delhi, Félix Nagar, le 25 mars 1959.
Aujourd'hui, cinquième jour de la bataille pour Lhasa. On sait que les combats à Lhasa continuent. Les Tibétains disposeraient maintenant de quelques mitrailleuses légères prises aux forces chinoises au cours des derniers jours. Il est à peu près certain aussi que les deux grands monastères voisins de Lhasa, Drobong et Sera, ont été bombardés et que les 13 000 lamas qu'ils comptent se sont joints aux combattants. Mais on ne possède encore aucun renseignement sur le sort du Dalai Lama ou sur le lieu où il se trouve. Tous les journaux parlent de nombreuses victimes, mais aucun chiffre n'est cité. Ici Félix Nagar, correspondant de l'agence France Presse à la Nouvelle-Delhi.
Et c'était le 25 mars 59, cette correspondance. À ce moment-là, on ne sait pas où est le Dalai Lama. En fait, il est dans la montagne, il vient de quitter Lhasa, et il se dirige vers l'Inde.
Il se dirige vers l'Inde, qu'il avait déjà visité, et il se dirige vers l'Inde, et il va arriver en Inde orientale, qui est la route pratiquement la plus courte pour aller en Inde, en traversant les plateaux d'abord, les plateaux tibétains, et ensuite l'Himalaya. Et il voyageait essentiellement de nuit pour ne pas se faire repérer par l'aviation chinoise.
Alors en tout cas, au même moment, donc les Tibétains qui sont restés à Lhasa sont victimes d'une répression féroce. Vous parlez de 2000 à 10 000 morts. On ne sait pas très bien, parce qu'il n'y a pas encore de témoins occidentaux. En tout cas, c'est le début d'une prise de conscience du drame tibétain dont commencent à parler les journaux, la revue de presse Stéphanie Duncan.
Oui, en mars 1959, le Tibet fait soudain la une des journaux du monde entier, bien qu'on ait du mal à savoir ce qui s'y passe là-bas exactement. Révolte ouverte au Tibet contre les communistes chinois, titre le Figaro le 23 mars. Selon des informations parvenues à New Delhi, rapporte Combat, toute la population de Lhasa se serait soulevée. Par milliers, les Tibétains, sans armes, auraient encerclé le palais de Potala en apprenant que les Chinois voulaient arrêter le lama, leur dieu vivant. Et le lendemain, il apparaît que les combats ont cessé dans la capitale, écrit La Croix, mais que la révolte s'étend à travers le pays. On ignore toujours le sort du Dalai Lama. Alors l'indignation est de plus en plus forte en Occident, un drame que l'on compare à l'intervention soviétique à Budapest en 1956, donc 3 ans plus tôt. Comme la Hongrie, le Tibet est écrasé par les troupes rouges, écrit Paris Journal. Alors on dit que le Dalai Lama aurait réussi à s'enfuir, on dit aussi que les Chinois auraient massacré des moines tibétains, et le Figaro l'affirme, 2000 Tibétains ont trouvé la mort au cours de la révolte, d'après des informations parvenues à Kalimpong, une ville à la frontière indo-tibétaine. Mais d'après le journal communiste Libération, c'est pas le même, évidemment, c'est pas le Libération d'aujourd'hui. Alors d'après ce journal, ces informations ne sont, je cite, que des racontars de muletiers tibétains, des pèlerins d'une saleté inexprimable qui vivent de l'exorcisme des mauvais esprits jouant sur des flûtes faites avec des tibias humains. On l'a vu dans l'émission d'hier, déjà au XIIIe siècle, on disait que les Tibétains étaient des sauvages, ça n'a pas changé. Alors ce qui m'a aussi beaucoup surprise, c'est l'extrême pudeur du journal Le Monde, oui Le Monde, à propos du Tibet, le 25 mars, donc 25 mars 59 encore. Alors que le monde entier s'indigne, l'éditorial du Monde juge, je cite, « les entretiens Est-Ouest et les soubresauts du monde arabe beaucoup plus importants » et évoque à contre-cœur, semble-t-il, les nouvelles sensationnelles du Tibet, les exagérations de la presse, puisant dans les récits confus des réfugiés tibétains. Et le Monde évoque aussi, je cite, « le réseau routier et le chemin de fer construit au Tibet par le génie chinois ». Bon, en tout cas, le 30 mars 59, c'est fini, la révolte du Tibet est matée. Le journal L'Humanité reprend froidement le communiqué officiel du gouvernement chinois. Un complot réactionnaire a été écrasé à Lhasa, Tibet. Le gouvernement local a été dissous. Mais L'Humanité, confiant dans le progrès, ajoute « le Tibet ira désormais de l'avant vers un avenir digne du XXe siècle ».
C'est incroyable, ces propos de la presse communiste, ou même du Monde de l'époque, qui semble se moquer totalement du Tibet. Une réaction peut-être, Françoise Pomaret ?
Non, ça ne me surprend pas vraiment.
Parce c'est l'alignement que sur la Chine.
C'était aussi un alignement, et puis c'était aussi le fait que beaucoup de nos intellectuels, je pense, à l'époque, étaient quand même très très séduits par la Chine, et par Mao, déjà, à l'époque. On hésitait. Mais ce qui me surprend le plus, c'est toujours de retrouver ce cliché des Tibétains sales et très très méprisants. C'est extraordinaire, comme vous l'avez dit, 13e siècle jusqu'à maintenant. Bon.
Alors, ce qu'il y a d'aussi surprenant, c'est comme vous le disiez, il y a des intellectuels qui sont fascinés par la Chine. On sait ce qui s'y passe, on sait ce qui va s'y passer. Surtout une répression féroce. L'exil, il ne faut pas l'oublier, de 70 000 Tibétains après 59 qui ont suivi le Dalai Lama, qui lui est en exil depuis plus de 40 ans. Et puis, au même moment, exil aggravé par la destruction de 6000 temples et monastères pendant la révolution culturelle surtout.
Oui, alors en fait, actuellement, on pense qu'il y a beaucoup plus de réfugiés que 65 000, on pense qu'ils sont au moins 150 000, et il en arrive tous les jours, n'oubliez pas, qui traversent l'Himalaya au péril de leur vie encore aujourd'hui, encore à l'heure où je vous parle. Donc ça c'est un premier point, et puis évidemment, il va y avoir la révolution culturelle. Alors la révolution culturelle va être une catastrophe pour le Tibet, puisque la plupart des monastères et des temples et des statues vont être détruites au nom de d'abattre les mots, si vous voulez, les différents mots. Mais ce qu'il faut, beaucoup de gens me disent, oh oui, mais ça s'est passé, il s'est aussi passé la révolution culturelle en Chine. Oui, mais c'était en Chine. là, la révolution culturelle est exportée au Tibet.
Alors, la politique chinoise va s'assouplir après la mort de Mao en 76. Les dirigeants chinois vont reconnaître leurs erreurs. Ils vont même ouvrir à nouveau le Tibet au tourisme. Une évolution, d'ailleurs, dont se réjouissait le Dalai Lama en 1986. On l'écoute dans cet archive du magazine Tabou de France Inter, donc parlant de l'essor du tourisme dans son pays en 1986.
C'est très bien. Il semble que la plupart de ces étrangers, des journalistes et quelques personnes privées, aient tous une impression concordante, celle que le Tibet est occupé par la force et par nos voisins de l'Est. Alors vous voyez, malgré les déclarations mielleuses chinoises, le peuple tibétain ressent actuellement beaucoup de colère.
Est-ce que vous croyez vraiment que l'armée chinoise va s'en aller?
C'est clair que les Chinois veulent rester. Tout le montre à l'évidence. Le plus important est la force de volonté humaine.
C'est extraordinaire, le rire du Dalai Lama. Françoise Marie, il nous reste peut-être quelques secondes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il suffit de la volonté humaine pour que un pays de 1 milliard 300 millions d'habitants, la Chine, puisse quitter un pays de 6 millions d'habitants à peine?
Si le Dalai Lama, qui est un homme religieux, n'a pas d'espoir, qui en aurait, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Et je pense qu'il faut toujours espérer.
Ben écoutez, c'est sur ces mots que nous nous quittons. Françoise Pommaret, merci de nous avoir rappelé donc hier et aujourd'hui l'histoire de ce pays et puis l'occupation qu'il subit depuis plus de 50 ans. Pour en savoir plus, je recommande votre livre, Le Tibet, une civilisation blessée, publié dans la collection Découverte chez Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits du remarquable film de Martin Scorsese, Kundun, disponible chez Pathé Vidéo, ainsi qu'une archive Pathé de 1955, éditée chez Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor et Christophe Goudin, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.